VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 12 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres, 5 soldats maliens ont été tués mercredi dans le centre du Mali lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Le président béninois Patrice Talon a dit espérer être avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Banjul le 19 janvier pour l'investiture du président de la Gambie. En RDC, la deuxième phase des discussions au dialogue politique sous l'égide de la CENCO s'est ouverte hier à Kinshasa. Donald Trump a laissé éclater sa colère hier contre les fausses informations diffusées par des médias lors de sa première conférence de presse depuis son élection à la présidence des États-Unis. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal. Au Mali, 5 soldats maliens ont perdu la vie dans la nuit du 10 au 11 janvier suite à l'explosion d'une mine dans le centre de Massina de Bamako. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
La route au Tenenkou-Massina est actuellement en construction. C'est une société chinoise qui s'occupe de la construction de cette nouvelle route en bitume. C'est pour assurer la sécurité des travailleurs de ces chantiers que des soldats maliens ont été déployés dans la zone. C'est l'un des convois de ce dispositif sécuritaire qui a sauté sur une mine dans la localité de Djafarabe. L'attaque a occasionné la mort de 5 soldats maliens, dont des sous-officiers. Dès l'annonce de cette attaque, dans la zone qui est considérée comme le fief du prédicateur invisible Amadou Koufa, le commandant de la région militaire de Ségou a envoyé du renfort sur l'axe Massina Djafarabe. En plus, le colonel Takmi Ag Itekan et ses hommes ont aussi entamé une opération de déminage dans la région de Ségou. Car selon plusieurs chefs de village, les mouvements des djihadistes et autres assaillants se font rares dans leur village. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, c'est pour cela qu'ils ont changé de stratégie en posant des mines le long des routes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président béninois Patrice Talon, en visite hier à Abidjan, a dit qu'il espérait être avec le président ivoirien Alassane Ouattara à Banjul le 19 janvier pour l'investiture du président de la Gambie, où le président sortant Yahya Jammeh s'accroche au pouvoir. Lors d'une déclaration télévisée dans la nuit de mardi à mercredi, M. Jammeh a dénoncé des ingérences étrangères sans précédent dans son pays et appelé à un règlement pacifique du contentieux électoral. La Gambie traverse une crise depuis que Yahya Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre, une semaine après avoir pourtant félicité M. Barrow pour sa victoire. En République démocratique du Congo, la deuxième phase des discussions au dialogue politique sous l'égide de la CENCO s'est ouverte hier à Kinshasa. Elle concerne cette phase la mise en application de l'accord signé le 31 décembre dernier. Les délégués des différentes forces politiques vont discuter pendant 48 heures des arrangements particuliers qui doivent conduire à la mise en œuvre du compromis politique. Les précisions de Gino Reima de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Selon Monseigneur le vice-président de la CENCO, chaque délégué a reçu les documents de travail pour l'examiner à fond avant le travail de mise en commun qui doit intervenir ce jeudi. Monseigneur Fridolé Ambongo.
Comme les uns et les autres n'étaient pas au courant de ce que le camp en face a dit, nous avons remis les documents à tout le monde. Comme ça, ils rentrent pour prendre connaissance de ces documents, se concerter éventuellement avec leur autorité morale et demain, nous reprenons les travaux à 10h.
Dans l'entretemps, Monseigneur le président de la CENCO a fixé l'opinion sur l'inclusivité de l'accord. Selon lui, tout est mis en marche pour avoir une inclusivité totale. Monseigneur Marcel Outembi.
La délégation du FRO est venue prendre part à ces travaux. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. L'inclusivité sera très bientôt totale.
Et à propos de cette inclusivité recherchée autour de l'accord, le cartel des signataires de l'accord de San City, une frange du Front pour le respect de la Constitution, compte se désolidariser du MLC et signer l'accord du 31 décembre 2016. Bembe Majimou est président de ces cartels.
C'est moi l'initiateur et fondateur de Front que vous voyez là. Vous pouvez demander aux gens de Merci vous dire la même chose.
Alors vous allez signer pour le compte du Front ou pour le compte du cartel?
Cartel Front, je vais signer. C'est le Front. Je suis fondateur.
Mais comment le Front n'a pas encore obtenu les réponses à ses revendications?
Revendications du MLC, ça engage que le MLC, qui est membre du Front. Ça n'engage pas le cartel.
Depuis Kinshasa, Gino Rema de Top Congo FM pour VO Afrique.
Les autorités du Congo-Brazzaville ont arrêté hier un journaliste soupçonné de complicité avec l'ancien chef rebelle Pasteur Ntoumi, accusé d'entretenir l'insécurité dans le département du Pôle, dans le sud du Congo, a appris l'AFP de sources judiciaires. Fortuné Dombé Bemba, 49 ans, directeur de publication de l'hebdomadaire indépendant Talassa, fait l'objet d'une interpellation par les services de la police judiciaire, d'après le procureur de la République. Les principaux leaders de l'opposition kényane ont officialisé hier à Nairobi, devant plus de 3000 personnes, la formation d'une alliance en vue de battre le chef de l'État Uhuru Kenyatta à la présidentielle prévue en août. Les précisions de John Linden.
Cette première véritable démonstration de force de l'opposition, jusqu'alors apparue désorganisée, a rassemblé les chefs de file des cinq principaux partis d'opposition, dont l'ancien premier ministre Raila Odinga et l'ancien vice-premier ministre Musalia Mudavadi. La nouvelle coalition baptisée NASA doit encore s'accorder sur celui qui sera porte-drapeau, un exercice qui semble être un de ses plus grands défis avant les élections. Les élections présidentielles de 2007 et 2013 avaient été marquées par des accusations de fraude. Les premières avaient dégénéré en violences politico-ethniques qui ont fait plus de 1100 morts, alors que celle de 2013 s'était déroulée dans un calme relatif. L'opposition proteste actuellement contre un amendement à la loi électorale prévoyant que la commission électorale puisse décompter manuellement les résultats des élections d'août 2017 en cas de défaillance du système électronique.
En Somalie, le Parlement a nommé son président hier, marquant une nouvelle étape vers une restauration des institutions de ce pays en proie à des violences attribuées aux islamistes d'Al-Shabaab et d'autres groupes armés. Cette élection du président du Parlement ouvre la voie à celle du prochain chef de l'État, Abdourahman Dia.
Mohamed Ousmane Diawari a été élu dès le premier tour avec 141 voix sur les 259 députés présents. Les lieux étaient sous forte protection et plusieurs rues étaient fermées à la circulation par peur d'un attentat des islamistes Shabab. L'élection du président du Parlement est une étape cruciale dans le choix du futur chef de l'État et s'est fait en vertu du système clanique régissant la politique du pays. L'élection de Diawari, 71 ans, signifie que son prédécesseur au poste de président de l'Assemblée nationale, Chérif Hassan Cheikh Adan, doit renoncer à se présenter car ils doivent venir de clans différents. Les candidats restants sont tous issus de deux autres groupes ethniques. L'actuel président Hassan Cheikh Mahmoud, 61 ans, ancien universitaire et activiste de la société civile, est candidat à sa propre succession. La Somalie, son véritable état central depuis la chute de Mohamed Siad Barre en 1991, est depuis plongée dans le chaos et la violence entretenue par des milices, des gangs et des groupes islamistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a laissé éclater sa colère hier contre les fausses informations diffusées par des médias sur d'éventuels liens secrets avec Moscou, tout en admettant le rôle de la Russie dans les piratages du Parti démocrate. Le républicain a tenu à réagir personnellement à la publication par le site BuzzFeed de 35 pages de notes alléguant de liens de longue date entre son entourage et le Kremlin. « Ce sont de fausses informations, c'est bidon, ces choses ne sont jamais passées », a-t-il tenu. Selon ces documents, à l'authenticité incertaine, les services russes d'espionnage disposent également d'informations compromettantes, compromates, compilées au fil des années à Moscou. Le Kremlin a nié l'existence d'un tel dossier. Par ailleurs, les ingérences de la Russie dans l'élection présidentielle américaine et son implication dans le conflit ukrainien ont dominé hier l'audience de confirmation de Rex Tillerson, que Donald Trump a choisi pour diriger la diplomatie américaine. Le républicain Marco Rubio a notamment voulu savoir si l'ancien directeur général du géant pétrolier ExxonMobil, qui est proche de Vladimir Poutine, considérait le président russe comme un criminel de guerre pour l'implication de son armée en Syrie. « Je n'utiliserai pas ce terme », a-t-il répondu. Rex Tillerson a refusé de dire s'il soutiendrait la mise en œuvre des sanctions récemment décidées par Barack Obama en réponse au piratage informatique imputé à la Russie qui aurait cherché à favoriser l'élection de Donald Trump. Les rebelles des FARC en Colombie devraient commencer à déposer leurs armes dans les prochaines semaines et les avoir toutes remises d'ici début juin, a indiqué hier l'émissaire de l'ONU pour ce pays. Quelques 5700 combattants des forces armées révolutionnaires doivent remettre leurs armes conformément à un accord de paix signé en novembre après 52 ans de confrontation armée. L'émissaire de l'ONU, Jean Arnault, a indiqué au Conseil de sécurité que le principal volet de cet accord était la mise en place de 26 camps de l'ONU où les rebelles pourront se rassembler et remettre leurs armes. La Minute Écho. John Linden.
L'année 2017 sera difficile pour les pays subsahariens en raison principalement de la chute des matières premières et de la faible croissance de la région. Dans son dernier rapport, Standard & Poor's ajoute à ce décor morose le faible potentiel de croissance des marchés comme l'Europe et la Chine et une notation régionale moyenne qui s'est dégradée et oscillant entre les catégories BB- et B spéculatives. La Guinée et le Togo ont obtenu des financements d'un montant total de 300 millions de dollars auprès de la Banque islamique de développement. Les deux pays utiliseront cet appui financier pour le développement des projets routiers. La Banque mondiale a légèrement abaissé ses prévisions de croissance autour du globe sur fond d'incertitudes croissantes sur la politique économique de la future administration Trump. L'institution reconnaît que certaines propositions du futur président américain pourrait doper la croissance mondiale comme son plan massif pour investir dans les infrastructures. La Banque mondiale met en garde contre la menace de représailles commerciales qui risquerait de freiner la croissance mondiale.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Cannes 2017, victoire de la Côte d'Ivoire en match de préparation.
À Abu Dhabi, la Côte d'Ivoire a battu l'Ouganda 3-0. Les buteurs ivoiriens, Kodja à la 51e, Zaha à la 58e et Aurier à la 72e. A noter Idrissa que c'est le premier but de Wilfried Zaha pour les champions d'Afrique en titre. L'ailier de Crystal Palace et ancien international anglais âgé de 24 ans a changé de nationalité après avoir représenté l'Angleterre à 2 reprises en match amical. Et puis à Brazzaville, le Sénégal a battu le Congo 2-0 en match de préparation pour cette CAN. Les buteurs, Baldé en première mi-temps et Ndiaye.
Le dopage en ligne de mire de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
Les présidents de 19 agences nationales antidopage estiment que la Russie devrait être exclue de toute compétition sportive, y compris du mondial de football qu'elle organise en 2018, et ce tant qu'elle n'aura pas réglé son problème de dopage. C'est le président de l'agence antidopage américaine, Travis Tygart, qui a fait cette annonce au site Inside the Games. Il précise que cette exclusion devrait également concerner le Mondial 2018 de football organisé en Russie.
Coupe du monde de handball en France.
La France accueille le championnat du monde de handball. Depuis hier, les Bleus sont favoris du tournoi qu'ils ont gagné à 5 reprises. Mais il faut se méfier des champions olympiques danois. Du côté de l'Afrique, 3 représentants, la Tunisie, l'Angola et l'Égypte. En piste dans le groupe B dès ce jeudi, Slovénie, Angola et Macédoine-Tunisie. Et demain, l'Égypte, championne d'Afrique en titre, jouera contre le Qatar dans le groupe B. Allez, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
New York Knicks, Philadelphia 97-98, Memphis, Oklahoma City 95-103, Houston, Minnesota 105-119 et Washington, Boston 108-117.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les tractations se poursuivent sous l'égide de la CENCO pour parvenir à finaliser l'accord du 31 décembre dernier. De passage à Washington, le porte-parole du gouvernement congolais réaffirme sur VOA Afrique que le président Kabila quittera le pouvoir après l'élection de son successeur. Nicolas Pineau a tendu son micro à Lambert Mende.
À ma connaissance, les évêques ont commencé à travailler, à trouver cette inclusion. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés jusque-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils continuent leurs contacts. Ce sont des gens très respectés. Nous avions toujours dit que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux, il y a souvent des chances que des solutions soient trouvées. Les évêques, ce sont nos évêques, ce sont nos frères qui sont des responsables de l'Église catholique et ça met tout le monde plus ou moins en confiance. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de douter qu'on arrivera à rapprocher les points de vue.
Samy Badibanga, le Premier ministre, n'a toujours pas signé cet accord. Pourquoi ?
Je pense qu'il soulève une question de principe dans la mesure où l'accord a été bouclé en l'absence des forces qu'il représente. Vous savez qu'il est à la tête d'un groupe parlementaire très important, le deuxième après la majorité présidentielle au niveau du Parlement, et que lorsqu'on est dans une telle position, je pense qu'on a des raisons d'exiger d'être pris au sérieux.
Le cas Moïse Katumbi, c'est un point de blocage ?
Non, je ne pense pas que ça puisse consister en point de blocage, c'est un point de principe. Dans la mesure où l'État congolais avait reproché à Moïse Katumbi des problèmes concernant la sécurité de l'État, il aurait été facile pour l'État d'abandonner les poursuites. Et tous les cas pour lesquels la commission des magistrats est arrivée à une décision d'abandon de poursuite concernaient des cas où l'État était préjudicié. Vous savez, lorsqu'il y a un complot contre l'État, l'État peut abandonner les poursuites. Mais le cas de Moïse Katumbi se complique par le fait qu'il y a non seulement ce cas pour lequel il y a des poursuites, qu'on pourrait éventuellement abandonner, mais il y a aussi une condamnation pour spoliation de biens privés. Qu'est-ce que les évêques vont faire ? Probablement négocier avec les privés qui ont maille à partir avec M. Katumbi, il n'y a que ça.
Est-ce qu'on votera avant la fin décembre 2017 pour la présidentielle en RDC ?
Tout dépend de la commission électorale nationale indépendante.
Qui avait déjà annoncé qu'on devait voter en 2018.
Donc là, je pense qu'on est allé un peu vite en besogne. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on a été trop optimiste en n'écoutant pas les experts. Je pense que vous vous rendez compte que l'accord du 31 décembre ne fixe même pas de date. Donc on a idéologisé une question qui est, à mon avis, une question technique. Je pense qu'il eût été plus sage de résoudre ce problème en écoutant les techniciens.
Est-ce que l'argent est là pour ces élections ou vous attendez encore des fonds ?
Pour ce qui concerne l'argent, il a été décidé que le gouvernement donnera priorité aux élections. On a besoin de, au bas mot, 1,8 milliard. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va devoir s'imposer beaucoup de sacrifices parce que le budget n'excède pas 5 milliards. Il va falloir construire moins d'écoles, construire moins d'hôpitaux, faire moins de routes, peut-être demander des sacrifices aux fonctionnaires et aux institutions pour que le Congo puisse avoir des élections qui sont le point de départ d'une mise en ordre du pays.
Et aujourd'hui, vous confirmez que le président Kabila quittera le pouvoir lorsque son successeur aura été élu ?
Le président Kabila ne peut pas ne pas respecter la Constitution. Tel est le prescrit de la Constitution. Il a prêté serment à la Constitution et la Constitution ne prévoit pas la possibilité d'un troisième mandat consécutif pour un chef d'État. Cela coule de source.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le régime semi-présidentiel conservé mais solidement encadré, la commission constitutionnelle chargée d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution pour la 5e République vient de rendre public son travail. Et sur les grandes lignes de ce document, notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
L'un des points frappants dans cette ébauche de la future constitution de la 5e République au Burkina Faso est la réduction des pouvoirs du président de la République. Si le régime semi-présidentiel est maintenu, il devrait être solidement encadré, prévient Luc Marius Ibriga. Il est le rapporteur général de la commission constitutionnelle.
Les pouvoirs du président sont encadrés et les pouvoirs de l'Assemblée sont élargis. Le président n'a plus la latitude de nommer comme il veut aux plus hautes fonctions. Il lui faut l'approbation de l'Assemblée nationale, comme ce qui se fait aux États-Unis entre le président et le Sénat. Ensuite, il y a le fait que le président ne peut pas utiliser les pouvoirs exceptionnels comme il veut. Non seulement c'est limité dans le temps, cela doit se faire avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale.
Le président du FASO ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne pourra pas non plus convoquer de référendum à sa guise. C'est l'approbation de l'Assemblée nationale dont la future constitution élargit les pouvoirs en diminuant ceux de son président. Ses mandats qui étaient illimités sont désormais plafonnés à deux. Le passage de Conseil à Cour constitutionnelle devrait permettre de veiller au respect des règles fondamentales de l'État, d'où sa saisine possible par le citoyen avant ou après toute promulgation. La redevabilité, désormais prise en compte, a, pour Luc-Marie Zibriga, un sens simple.
Faire en sorte que les deniers publics soient bien gérés. On a prévu des organes pour le contrôle interne, un organe de lutte contre la corruption, et un organe pour le contrôle externe qui devient une institution en dehors du pouvoir judiciaire, à savoir la Cour des comptes.
D'autres points saillants de ces changements, l'élargissement des droits socio-économiques des citoyens et un accent sur le genre. Autre changement fondamental, la constitutionnalisation de l'armée qui serait désormais encadrée par des règles soumises au contrôle de constitutionnalité, notamment en sa justice militaire. Le statut de l'opposition évolue aussi avec l'obligation faite au président de la République de la rencontrer sur des questions d'intérêt national, lui permettre en plus chaque année de demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Un document né après 2 mois de débat et de consensus et qui sera expliqué à l'intérieur comme hors du Burkina Faso avant sa finalisation, rappelle Alidou Ouedraogo, un des membres de la commission constitutionnelle. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Mali, ouverture hier du Forum de la jeunesse, le thème retenu « Jeunesse et entrepreneuriat ». Plus de 300 jeunes venus d'Afrique et de la diaspora ainsi que des jeunes français y participent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Modibo Keïta en présence des ministres de la jeunesse de pays africains. De Bamako, Kassim Traoré fait le point.
En prélude au 27e sommet Afrique-France, les jeunes du continent sont en convergence au Mali autour de la problématique jeunesse et entrepreneuriat. Amadou Koïta, ministre malien de la jeunesse et de la construction citoyenne.
Les questions brûlantes aujourd'hui de nos pays sont les questions d'emploi, les questions de chômage qui souvent peuvent amener les jeunes à aller sur des chemins qui ne sont pas souhaités. L'entreprise joue un rôle extrêmement important dans la promotion d'un secteur vital qui est le secteur économique. L'entreprise crée de la richesse. L'entreprise donne de la formation. L'entreprise crée des emplois. Voilà pourquoi ce thème a été choisi pour que les décideurs africains puissent créer un espace serein, stable, où des jeunes qui souhaitent s'installer à leur propre compte.
Pendant 3 jours, les participants, à travers des travaux en plénière et ateliers, vont débattre de la question d'entrepreneuriat jeune.
Je suis Claude Kangoudia. Je viens de la République démocratique du Congo. Et l'entrepreneuriat, surtout dans nos pays africains où les jeunes sont au chômage, ça demande vraiment que les jeunes puissent se prendre en charge en créant les entreprises et en gérant les entreprises. Cette fois-ci, il va créer l'emploi pour les autres jeunes.
À peine la cérémonie d'ouverture terminée, les panels ont démarré avec les experts.
Je m'appelle Awa Kanté. En fait, je suis expert comptable et commissaire aux comptes installé en France et j'essaie de développer au Mali. Donc, on est là pour pouvoir inciter, parce que c'est le forum de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Donc, par rapport à ça, moi, aujourd'hui, c'est pour aussi soulever le point qu'aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre sans accompagnement. On parle d'accompagnement professionnel. Par exemple, un jeune entrepreneur, il a besoin d'être accompagné, que ce soit économiquement, fiscalement, comptablement, juridiquement.
En 2005, Bamako avait abrité le 23e sommet Afrique-France. Une déclaration de la jeunesse a été lue lors de ce sommet. 11 ans après, la porte-parole de la jeunesse africaine revient au Mali pour faire un bilan.
Je suis Tamoua Fokam-Marie, je viens du Cameroun. Aujourd'hui, il est question de faire un bilan de ces 11 années, pas seulement ces 11 années,
années, mais depuis le dernier sommet. Nous avons 2 jours de discussion avec l'ensemble des délégués qui sont venus des pays. Il y aura des échanges qui seront faits. Donc pour moi, aujourd'hui, le bilan, il doit être positif.
Le Forum des jeunes de Bamako 2005 a tenu ses promesses. C'est l'avis du président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Mohamed Sania Touré.
On sait que ça a abouti à la mise en place du PAJM, par exemple, le programme d'appui à la jeunesse malienne, qui a financé beaucoup de jeunes dans le monde rural, etc., qui a fait aujourd'hui des entrepreneurs agricoles accomplis que moi-même je connais. J'en ai installé grâce au financement PAJM, à travers les 2 millions d'euros que le PAJM a servi à mettre en place.
Le souhait de la jeunesse africaine est la mise en place d'un fonds de développement pour appuyer les jeunes entrepreneurs dans les pays africains. Ce souhait sera traduit dans une déclaration dite de Bamako qui sera remise aux chefs d'État africains à l'ouverture du sommet. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Ici aux États-Unis, première conférence de presse de Donald Trump depuis son élection à la présidence, à part son accrochage avec un journaliste de CNN dont il a accusé la chaîne de propager de fausses nouvelles, M. Trump a répondu à des questions sur différents sujets, la Russie, le mur entre le Mexique et les États-Unis, ainsi que l'Obamacare, le programme d'assurance maladie du président Obama. Pour la première fois, M. Trump a reconnu le piratage russe du Parti démocrate, ai-je dit à l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen.
Oui, il a dit clairement qu'il accepte que la Russie était dans le piratage du Parti démocrate. Mais en même temps, il dit mais il y avait d'autres aussi qui ont fait le piratage. C'est pas seulement la Russie, il y a la Chine, il y en a d'autres pays aussi.
Alors donc, ce qui veut dire que pour les sanctions prévues par M. Obama, il pourrait éventuellement les lever?
Oui, il n'a pas dit ça, mais aussi il a dit que c'est une mauvaise chose que la Russie a fait ça. Mais il a donné une idée qu'ils vont enlever les sanctions, oui.
Mais il a estimé aussi que Vladimir Poutine, qui est un ami à Donald Trump, quel mal y a-t-il à cela? C'est même un avantage, a-t-il dit pendant la conférence de presse.
Oui, il a dit que c'est un atout. C'est pas mauvais, si nous sommes en bon terme. C'est possible que nous n'allons pas tomber d'accord sur plusieurs choses, mais il faut essayer quand même, il faut essayer.
Et qu'est-ce que vous en pensez vous-même en tant que diplomate?
Je crois que il n'a pas tout à fait tort, parce que je crois que Poutine a besoin des accords. Par exemple, il dépense beaucoup d'argent en Syrie. Il perd des soldats. Il a besoin de quitter la Syrie avec honneur. Donc, Trump peut l'aider. En même temps, Trump peut demander certaines concessions en Ukraine, par exemple.
Mais vous savez très bien que l'ancien président Bush avait essayé, le futur ancien président Obama a essayé aussi, et ça n'a pas donné les résultats escomptés avec Poutine.
C'est ça. À mon avis, la situation économique en Russie est vraiment mauvaise. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est le pétrole. Avec le prix de pétrole très bas, la population russe souffre. Il a des problèmes à l'étranger. Il doit se montrer que la Russie est très forte à l'étranger. Donc, je ne crois pas qu'il va être très ami avec les États-Unis.
Très rapidement, le mur, est-ce que les Mexicains vont rembourser la construction de ce mur?
C'est ce que M. Trump dit, mais il n'a pas donné une idée comment il va obliger les Mexicains à rembourser. Tout ce que je sais, c'est qu'il va demander au Congrès américain de financer et après on va demander un remboursement, mais il n'a donné aucune idée sur la méthode.
Et l'Obamacare, il dit que ça va être aboli et remplacé par quelque chose d'autre presque simultanément. Est-ce possible?
À mon avis, c'est pas possible parce que c'est très compliqué. Pour le moment, les républicains qui parlent de ça depuis 7 ans déjà, ils n'ont pas d'idée. Ils ont dit nous allons le remplacer avec quelque chose de mieux. Mais ils n'ont pas d'idée. Mais je suppose qu'ils travaillent jour et nuit maintenant pour organiser un remplacement.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines à Washington. Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.